Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Les fonds de l'UNRWA ont été très impactés ces dernières années par les campagnes de délégitimation de la solidarité avec les Palestiniens. C'est ce qu'indique Pierre Motin, responsable plaidoyer de la plateforme des ONG françaises pour la défense de la Palestine. Pierre Motin sera l'un de nos invités. Les combats entre les forces kurdes et les djihadistes ont fait 136 morts en 4 jours en Syrie. Ils ont été déclenchés jeudi dernier après un assaut du groupe État islamique contre une prison du nord-est du pays. Le pass vaccinal est entré en vigueur aujourd'hui en France. Il est obligatoire pour les personnes de plus de 16 ans pour beaucoup de situations de la vie quotidienne. Regard sur la situation sociale en France en ce début d'année. Nous écouterons Patrick Le Yarrick, éditorialiste à l'Humanité, ancien député européen. La Coupe d'Afrique des Nations et la qualification de la Tunisie pour les quarts de finale. Et les Aigles de Carthage qui ont battu le Nigeria hier soir 1-0. L'Agence des Nations Unies pour l'aide aux réfugiés palestiniens a récemment lancé un appel à la communauté internationale. Son objectif, récolter 1,6 milliard de dollars cette année. Son commissaire général souligne que l'UNRWA est confrontée à une insuffisance budgétaire chronique qui menace sérieusement ses capacités à maintenir ses services. Il indique que la somme que l'UNRWA demande pour 2022 contribuera directement au bien-être des réfugiés palestiniens, aux efforts pour combattre et contenir le Covid-19 et à la stabilité régionale. Pierre Motin, responsable plaidoyer de la plateforme des ONG françaises pour la défense de la Palestine, revient tout d'abord sur les missions de l'UNRWA.
L'UNRWA, c'est une agence de l'ONU qui date de décembre 1949, qui vient en aide aux réfugiés palestiniens dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie, au Liban et en Syrie, donc partout où on trouve des réfugiés palestiniens.
Cette agence des Nations Unies qui a tout récemment lancé un appel de 1,6 milliard de dollars pour financer ces activités. Est-ce que justement vous pouvez nous faire part des activités essentielles de l'UNRWA ?
Cet appel à don de l'UNRWA, c'est pour que les réfugiés palestiniens puissent se procurer de la nourriture et d'autres produits de première nécessité. Il s'agit notamment des réfugiés palestiniens du Liban et des réfugiés palestiniens de Syrie qui résident au Liban après la guerre en Syrie, qui souffrent d'importantes difficultés socio-économiques dans un contexte politique et économique délétère au Liban. Ils souffrent aussi de problèmes liés à la pandémie de coronavirus. Ces 1,6 milliard d'euros ont aussi pour objectif de mettre en place des fonds d'urgence pour les soins de santé, l'éducation et notamment la fourniture de carburant dans les camps de réfugiés. Il faut savoir qu'on atteint des taux de pauvreté énormes parmi les réfugiés palestiniens de Syrie, des taux de pauvreté qui atteignent 87%. Et on estime en général que 2,3 millions de réfugiés palestiniens actuellement vivent en situation de pauvreté.
Comment expliquer aujourd'hui les difficultés de l'UNRWA ?
Les difficultés de l'UNRWA s'expliquent par le fait que ces fonds ont été très impactés ces dernières années par les campagnes de délégitimation de la solidarité avec les Palestiniens. C'est cette délégitimation de la solidarité avec les Palestiniens. Elle touche aussi bien les ONG indépendantes que les agences de l'ONU. On en a parlé notamment dans notre rapport publié en octobre 2021 sur les stratégies donc qui visent à attaquer toutes les organisations et les personnes qui viennent en aide aux Palestiniens. Et cette délégitimation s'est traduite pour l'UNRWA par la baisse de ses dotations par des différents pays, et notamment de ses dotations par les États-Unis sous l'administration Trump. Désormais, sous l'administration Biden, l'UNRWA a de nouveau de l'argent qui provient des États-Unis, mais elle se trouve tout de même en grande difficulté financière dans une situation, comme je l'ai rappelé, où les réfugiés palestiniens du Liban et de Syrie font face à des difficultés accrues dues à la situation économique et dues à la situation sanitaire liée au Covid.
Vous évoquez ces ONG qui ont été classées comme organisations terroristes par Israël. Cela a eu un impact direct sur l'aide fournie par la communauté internationale ?
On commence malheureusement à voir un impact de ce classement de 6 ONG palestiniennes comme terroristes par Israël. Il y a notamment une de ces ONG, l'UAWC, qui a une dotation de la part des Pays-Bas qui vient d'être gelée. Alors que l'accusation de lien de financement entre cette ONG et le Front populaire de libération de la Palestine n'a absolument pas été prouvé, ce que reconnaît d'ailleurs le gouvernement des Pays-Bas.
L'année dernière, l'année 2021, a été la plus meurtrière pour les Palestiniens depuis 2014. C'est ce qu'indique le rapport de B'Tselem, cette ONG israélienne de défense des droits de l'homme. Cela s'explique en particulier par l'offensive sur la bande de Gaza au printemps dernier.
Oui, en partie. Alors bien sûr, pour la plus grande partie de ces morts, ils sont liés à l'offensive à Gaza. En général, on compte 319 Palestiniens tués par Israël en 2021, dont 71 mineurs, contre 9 Israéliens tués par des Palestiniens cette même année. À Gaza, B'Tselem recense 236 morts, la quasi-totalité d'entre eux tués par les bombardements israéliens pendant la guerre de mai dernier, sur des endroits densément peuplés, là où vivent des populations civiles, qui est tout à fait contraire au droit humanitaire international.
Et cette année 2022 est marquée par une poursuite de l'accentuation de la colonisation, également par la destruction de plusieurs habitations de Palestiniens, comme cela a été le cas cette semaine.
Oui, tout à fait. Cette semaine a été marquée par l'expulsion et la destruction de la famille Sahiya à Jérusalem-Est, dans le quartier de Sheikh Jarrah, dont on a beaucoup entendu parler l'année dernière. C'est une tendance qui se confirme. Par exemple, en 2021, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, 895 Palestiniens, dont 463 mineurs, ont été rendus sans abri après que 295 structures résidentielles ont été démolies. Et c'est le nombre le plus important depuis 2016. À Jérusalem-Est seul, on a 160 structures qui ont été démolies, dont 96 habitations. Donc on voit en général une tendance à la hausse des expulsions et des destructions pour les Palestiniens, qui s'inscrit totalement dans la politique d'apartheid, documentée par de nombreuses ONG en 2021, dont B'Tselem, dont nous parlions, et l'ONG internationale Human Rights Watch.
Pierre Motin, responsable plaidoyer de la plateforme des ONG françaises pour la défense de la Palestine. Une attaque au couteau s'est produite à Tunis. 3 personnes ont été blessées hier soir dans un tramway. Cela s'est passé dans le centre de la capitale tunisienne. L'agresseur souffrirait de troubles psychologiques. Il vivait en Italie et était de retour en Tunisie depuis 2020. Le président algérien entame ce lundi une visite de travail de 2 jours en Égypte. Selon l'agence officielle algérienne APS, cette visite permettra de renforcer les relations historiques et politiques entre les deux pays, de promouvoir la coopération bilatérale et de poursuivre la coordination et la concertation sur les principales questions arabes et régionales d'intérêt commun. C'est la 2e sortie à l'étranger du chef de l'État algérien depuis son arrivée au pouvoir en décembre 2019. Sa première visite l'avait conduit en décembre dernier en Tunisie. Les établissements scolaires restent fermés encore une semaine en Algérie. Ils sont fermés depuis le 20 janvier dernier. En cause, une hausse des contaminations au Covid-19, essentiellement dans les écoles. Pour l'enseignement supérieur, le choix est laissé à l'appréciation des recteurs. D'après les autorités, 94% des patients décédés du Covid-19 en Algérie n'avaient pas été vaccinés. Les combats entre les forces kurdes et les djihadistes ont fait 136 morts en 4 jours en Syrie. Ils ont été déclenchés jeudi dernier après un assaut du groupe État islamique contre une prison du nord-est du pays. C'est l'une des plus grandes abritant des djihadistes en Syrie. Et gardé par les forces kurdes. Les assaillants ont indiqué s'être emparés d'armes et avoir libéré des centaines de détenus. Regard à présent sur la situation sociale en France en ce début d'année 2022. Quel est le bilan de l'année passée, une nouvelle fois marquée par la crise sanitaire, et quelles sont les perspectives pour cette année? Le regard, le point de vue de l'éditorialiste à l'Humanité, ex-député européen Patrick Le Yarrick.
La question sociale ne se dissocie pas de la question sanitaire, de ce qu'ont vécu les gens avec les dispositions qui ont dû être prises pour maintenir l'économie à flot, pour empêcher un certain nombre de plans de licenciement, pour favoriser le télétravail. Mais en même temps, on voit bien que un certain nombre de régressions continuent à se poursuivre, alors que les entreprises cotées en bourse dans tous les pays occidentaux n'ont cessé d'augmenter leurs profits. Par exemple, le taux de chômage, quoi qu'on dise, reste très élevé, parce qu'on ne compte pas là-dedans un certain nombre de gens qu'on sort du chômage, on ne compte pas la précarité, alors que l'emploi, notamment l'emploi nécessaire aux transitions qui sont aux défis qui sont face à nous, dans le sanitaire, dans l'environnement, pour empêcher les effets négatifs du réchauffement climatique, ne se font pas. Les salaires n'ont pas été relevés, alors que les prix flambent partout, notamment le prix de l'énergie, qui aujourd'hui a des conséquences difficiles sur les familles en général, les familles populaires en particulier, mais maintenant sur les entreprises. Il y a des entreprises, des petites entreprises, qui ne peuvent plus payer l'énergie. On nous a parlé pendant des années et des années comme facteur de compétitivité du travail, du coût du travail, prétendument. On nous a jamais parlé du facteur de compétitivité que constitue une énergie à bas prix. Et vous avez eu la liquidation du secteur économique, dans les fonderies notamment, mais il ne faut pas oublier non plus l'agriculture, où c'est chaque jour que des exploitations agricoles ferment. Donc la question sociale, la question de l'urgence sociale, de la rémunération du travail lui-même, du sens du travail, puisqu'on voit que désormais il y a des gens qui se posent beaucoup cette question au point de démissionner de leur activité aujourd'hui, l'enjeu de l'urgence sociale est plus que jamais posé.
Vous évoquiez le télétravail qui est obligatoire lorsque cela est possible, 3 voire 4 jours par semaine. Le télétravail qui met en lumière les inégalités sociales notamment.
Oui, forcément, parce que d'abord, ceux qui ne télétravaillent pas sont ceux qui, en général, sont les moins bien rémunérés, dont l'emploi est le plus flexible. Ces millions de salariés prolétarisés aujourd'hui, dont on parle très peu dans la logistique, dans le transport, dans ceux qui font des cartons, ceux qui sont dans le nettoyage des bâtiments comme les nettoyages extérieurs, les employés communaux, les soignants. Donc on voit bien qu'il y a là une première inégalité. Seconde inégalité, il y a ceux, les cadres supérieurs, qui vont aujourd'hui pouvoir travailler en télétravail et même sortir de la vie des grandes villes en s'installant au bord de la mer ou à la campagne, mais parce qu'ils en ont les moyens. Celui qui a même qui est dans un service et qui a un salaire bas, même un enseignant, même un médecin de ville, lui ne peut pas se permettre ça.
Quel regard, Patrick Léaric, portez-vous sur la loi de finances 2022 dont le Conseil constitutionnel a tout récemment validé l'essentiel des mesures sociales?
Les lois de finances se ressemblent depuis des années. La différence cette fois, c'est qu'il faut tenir compte de la situation sanitaire, donc il a fallu débloquer un certain nombre de fonds pour venir en aide aux entreprises ou aux particuliers, ou pour combler un peu la perte de pouvoir d'achat. Mais chacun voit bien que c'est une disposition, une loi de programmation budgétaire de long terme qu'il faudrait adopter, avec un budget en augmentation. Mais pour avoir un budget en augmentation, il faudrait non pas réduire les impôts sur la production, les impôts de production, comme ils disent si bien, les impôts sur le capital, sur les sociétés, mais au contraire, faire participer ceux qui ont les moyens en proportion précisément de ce qu'ils touchent. Et à côté de ça, abaisser l'imposition, notamment l'impôt indirect, sur les familles populaires. Si on baissait l'impôt indirect aujourd'hui sur l'énergie, sur les produits de première nécessité, les gens vivraient mieux. Mais pour cela, évidemment, il y a un choix politique inverse de celui que fait le gouvernement qui est nécessaire, qui est celui de la nécessité de faire contribuer à la fois les revenus les plus élevés, mais aussi les patrimoines. Vous avez vu que 0,1% des plus riches de la société amassent un patrimoine considérable que n'ont pas les 50% des plus modestes.
Patrick Le Yarrick, ancien député européen, éditorialiste à l'Humanité. Le pass vaccinal est entré en vigueur aujourd'hui en France. Il est obligatoire pour les personnes de plus de 16 ans qui souhaitent notamment se rendre dans les lieux de loisirs, au restaurant ou encore prendre le train ou l'avion. Pour cela, il faut avoir un schéma vaccinal complet. Ce document succède au pass sanitaire. Un test négatif ne suffit donc plus, sauf pour accéder aux établissements et services de santé. Et c'est aussi aujourd'hui l'ouverture de la dose de rappel pour les 12-17 ans. Ce message optimiste de l'OMS, le variant Omicron, qui pourrait contaminer 60% des Européens d'ici mars, a amorcé une nouvelle phase de la pandémie de Covid-19 dans la région et pourrait la rapprocher de son dénouement. Voilà ce qu'estime le directeur Europe de l'Organisation mondiale de la santé. Il appelle toutefois à la prudence à cause de la versatilité du virus. La Coupe d'Afrique des Nations et la qualification de la Tunisie pour les quarts de finale. Les Aigles de Carthage ont battu le Nigeria hier soir, 1-0. La Tunisie affrontera le Burkina Faso samedi prochain. Prochain coup d'envoi, 20h, fin de cette édition. Vous êtes bien sûr Radio Orient. Il est 12h16. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash. 17h30 pour le journal. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine, candidat à l'élection présidentielle. Émission présentée par Loïc Barrière. Excellent après-midi à l'écoute de Radio Orient.